donc, c'est-tu la toune de Pink Floyd qui commençait?
Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tout le monde l'apprend tout le temps pour les chroniques financières. Francis Gosselin est avec nous. Bonjour Francis, tu es président d'un organisme qui s'appelle Sage Conseil et tu t'intéresses à tout ce qui est économique, financier. Et on regarde ça, là. Moi, j'ai Desjardins qui a échappé mes données personnelles dans la nature, TransUnion qui a échappé mes données personnelles dans la nature, Equifax qui a échappé les données personnelles dans la nature.
FaceApp qui a pris ton visage, puis
toutes les données. Oui, FaceApp, je l'aurais donné aux autres.
Ah, tu l'aurais donné?
Oh, je l'aurais donné.
J'imagine, ensuite, Myriam, que tu avais lu toutes les petites lignes des clauses de FaceApp pour t'assurer que c'était conforme.
Oui, c'est pour ça que je suis très ému par les conservateurs qui disent qu'ils vont demander que les applications nous donnent plus de détails avant de consigne, là, on les lit pas. Bon, j'ai Capital One qui a échappé mes données dans la nature. Je me suis dit, tant qu'à les échapper dans la nature de toutes sortes de manières, je pourrais-tu moi-même en bénéficier? Pourrais-tu les vendre?
Ben, c'est un peu la proposition qu'a fait le candidat démocrate Andrew Yang, qui est le 7e candidat en liste là, à la primaire démocrate. Donc, c'est probablement pas le prochain président des États-Unis. Mais ça reste que c'est une proposition. Puis c'est un article qui a attiré mon attention cette semaine qui disait justement qu'il était peut-être possible de faire en sorte que les citoyens, n'importe qui, soient rémunérés pour ces données qui circulent librement dans les banques, mais principalement, surtout sur Internet. Tu parlais donc de la proposition conservatrice, là, je l'ai pas détaillé, mais je sais qu'en Europe, par exemple, il y a eu un projet de loi, puis en fait une loi qui a été adoptée au niveau européen, qui est le Règlement général pour la protection des données. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport à cette histoire de petite clause là, qu'on lit jamais, le règlement sur la protection des données oblige tous les sites web à rendre très clair ce qu'ils vont faire avec tes données. Okay. C'est-à-dire en 3-4 bullet points, là, genre je vais les vendre ou je vais les distribuer ou je vais les mettre dans un coffre-fort.
Donc c'est bien écrit, là. On n'est pas en train de devoir se le faire interpréter par quelqu'un d'autre.
La proposition conservatrice, c'est plus de détails. Ça me semble être plus de petits caractères.
Ceci dit, le Canada et les États-Unis, pour l'instant, traînent un petit peu de la patte, puis c'est pas étranger au fait qu'évidemment, tous les grands acteurs de l'Internet qu'on utilise quotidiennement, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, c'est des entreprises américaines. Donc, évidemment, ils font du lobbying auprès du gouvernement pour s'assurer de pas être obligés de tout révéler le
projet rose. J'ai aussi compris quelque chose dans le reportage, c'est enquête, je pense, cette semaine, qui nous montrait comment les politiciens en campagne électorale achète mes données personnelles et s'organise pour être capable de savoir ce qui va m'intéresser pour me dire ce que je veux entendre.
Non seulement
donc,
ça, mais rien.
Donc, ils veulent pas y protéger mes données personnelles parce qu'ils en bénéficient, ils font partie des voleurs. Bon.
Non seulement ça, mais les partis politiques au Canada, c'est une des rares organisations qui est totalement exemptée de devoir dévoiler quoi que ce soit. Et c'était un peu étrange, j'ai écouté aussi une émission, je pense que c'était peut-être la même, quand les gens font du porte-à-porte, par exemple, et qu'ils viennent vous solliciter pour leur vote, que ce soit libéral, conservateur, NPD, etc., ils peuvent prendre des notes, quel genre de qui est dans le garage, est-ce qu'il y a des enfants dans la maison, quel poste de télé.
Ah, ils notent tout.
C'était dans le reportage d'enquête. Je l'ai fait, ça, parce que j'avais accompagné un candidat en porte-à-porte.
T'as été volé des données personnelles dans la cour du monde.
Des données personnelles.
Toi la coupable.
Donc c'est une raison de plus pour les sacrés dehors à coups de pied dans le derrière quand ils se présentent.
Mais bref, pour revenir à mon point, c'est que l'idée c'était.
C'était symbolique là ce que je disais. C'était pas littéral.
Qu'on puisse faire de l'argent avec ça. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on ait à adhérer ou pas au fait qu'on nous prenne nos données, est-ce qu'on peut transformer ça en source de revenus? Il y a un philosophe de l'internet qui s'appelle Jaron Lanier qui est aussi fondateur d'Atari. Si je ne sais pas si il y a des joueurs d'Atari.
Le Atari, là?
Le Atari.
OK.
Il a pas 20 ans, tu sais. il est d'avis que chaque fois que vous utilisez un ordinateur, c'est-à-dire en ce moment, vous devriez être payé. Parce qu'aujourd'hui, utiliser un ordinateur, essentiellement, c'est être connecté à Internet. Même si vous utilisez Microsoft Word, en ce moment, vous utilisez une licence de Microsoft Word et donc vous êtes connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser.
Pratiquement. Le pire, c'est que c'est moi qui paye pour avoir la licence.
C'est vous qui payez. Ben lui, il dit on devrait inverser, en fait, cette relation-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai un peu regardé. En 2018, par exemple, Google a fait 136 milliards de dollars de profit. Presque 200 milliards de dollars canadiens. Là, c'était 136 US. Il y a à peu près 2 milliards d'utilisateurs de Google. Fait que ça fait environ 68 dollars de profit par utilisateur. Mais où est-ce qu'il vient, ce profit-là? Il vient de quelque chose que tu vends. Puis qu'est-ce que tu vends? Mais tu vends des consommateurs qui vont aller acheter des choses. Donc, en fait, on, comme on le dit souvent, on est le produit. Hein, mm-hmm. L'utilisateur de Google, il est le produit. Ben, ça, c'est 68 $ chez Google. Facebook a augmenté aussi beaucoup ses profits en 2018. On fait 55 milliards de dollars. Il y a environ 2 milliards d'utilisateurs actifs aussi chez Facebook. Et ça donne donc 27,50 $ de profit par utilisateur du côté de Facebook. Et ça, ça augmente là, de genre de 100% chaque année depuis plusieurs années.
Fait que moi, si je le vendais moi-même, plutôt que de leur donner le 25$ ou le 70$, ouais. Ben, je l'aurais pour moi. Là.
Ben, comme dans n'importe quelle compagnie, Alexis, je veux dire, moi, tu sais, bon, j'offre des services, mais à un moment donné, je paye aussi des fournisseurs, etc. Ben, Facebook, ils vendent un service de publicité, etc. Mais leurs fournisseurs, c'est les utilisateurs, hein, c'est eux qui donnent leurs données. Donc, pourquoi on rémunère pas le fournisseur? Donc, j'exigerais pas, mettons, que l'entièreté du 27$ me soit remis, mais peut-être la moitié ou le quart. Et donc, à quelque part, ça pose la question, on est sur plein de sites web, sur plein de médias sociaux, Instagram, WhatsApp, j'en ai mentionné plusieurs déjà. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer cette espèce de paiement à l'utilisation? C'est-à-dire, plus tu y vas, plus t'es
payé. OK. Donc tu toucherais de l'argent parce que chaque fois que tu te connectes, dans le fond, tu donnes les données personnelles qui leur permettent de vendre la pub pour venir te solliciter et sortir de l'argent de tes poches.
Exactement.
Puis comme on devrait avoir notre code-part.
On devrait avoir notre code-part comme fournisseur de ces plateformes-là. Et ça poserait évidemment une solution à quelque part là, à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de données puis on a beaucoup faim pour plus de données. Hein, tous ces sites-là qu'à chaque fois vous connectez, mets donc ton numéro de téléphone puis dis-nous donc si telle personne dans ton email est ton ami. Puis,
c'est quand même... Oui, mais c'est pour mon bien, c'est pour me sécuriser qu'ils me demandent mon numéro de téléphone pour faire des doubles vérifications.
Si tu te fais frauder ou encore...
C'est quoi déjà? On veut votre bien.
On va l'avoir.
Exactement. Et donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a plusieurs de ces plateformes-là, dont Facebook, Myriam, qui ont lancé récemment, ils ont annoncé récemment la volonté de lancer leur propre même monnaie. C'est-à-dire que non seulement ils pourraient te rémunérer, bon, en dollars US, en dollars canadiens, en euros, etc., mais ils pourraient peut-être te rémunérer dans une monnaie spécifique à la plateforme.
Là, ce que tu dis, là, j'ai comme l'impression que c'est un peu être influenceur malgré toi, là.
Ben, c'est qu'on est tous un peu influenceurs, hein. Si moi, je poste ma chronique de ce matin sur mon Facebook tout à l'heure, puis d'ailleurs, celle de la semaine dernière a très bien fonctionné, puis j'ai 100 likes, ben, je suis un peu un influenceur du FM 93, puis ben, à quelque part, je dis pas que vous devriez me payer des millions et des millions, mais peut-être que j'aurais droit à 50 cents pour ça. Puis après ça, tu vas partager une autre affaire ou tu vas visiter tel autre site web, ben, t'as 8 cents pour ça. Puis à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, ben, peut-être, je sais pas, tu fais 100$, 200$, 300$ pour avoir partager et échanger sur Internet.
T'as tellement eu de variations, puis de clics, puis de visibilité sur Facebook que eux se disent ben, c'est très bon pour nous, donc on va te donner de l'argent en échange.
Okay. Mais effectivement, ils sont tannés par les influenceurs parce que les influenceurs vendent de la pub qui échappe actuellement à Facebook et à Google, etc.
Bien sûr, ils font ça en parallèle, évidemment, de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement vers un annonceur, ils vont aller voir, je sais pas, un McDonald's, un L'Oréal, etc. Ils vont dire hey, donne-moi quelques milliers de dollars, je vais utiliser une plateforme, Instagram, Facebook, YouTube, évidemment, est très populaire pour ça. Et je vais vendre mon temps.
Exact.
Mais c'est pas, à ce moment-là, la plateforme qui rémunère.
Qui en bénéficie.
Et petite parenthèse, ceci dit, qui est vraiment intéressante dans cet univers-là, c'est que YouTube, c'est la seule exception à la règle qui ont vraiment compris ce système-là. C'est-à-dire que YouTube, si vous partagez des vidéos fréquemment et vous dépassez un certain seuil, bien évidemment, YouTube va vendre ce qu'on appelle des pre-rolls, c'est-à-dire des publicités avant la vidéo. Et ils vendent ça, eux, à GM, puis tout ça, bien, comme on le fait à la radio. Et ça, ils en remettent une partie aux YouTubers. Et donc, il y a une manière de se faire de l'argent juste en cliquant beaucoup de vues sur cette plateforme-là. C'est pas mal la seule exception que je connaisse.
Dis-moi, ce matin, dans la Presse Plus, ils parlent du Libra, qui est la fameuse monnaie que voulait mettre au monde Facebook et qui semble avoir du plomb dans l'aile parce que Facebook s'était associé, c'est pas rien, là, avec PayPal, Mastercard, eBay, Visa. En fait, les grands émetteurs de cartes de crédit, puis les grands systèmes de paiement en ligne.
Ouais.
Or, là, ces quatre-là viennent de larguer Facebook. C'était quoi le deal? C'était quoi
Je ne vais pas rentrer dans la théorie monétaire, Myriam, ce matin, mais tu t'imagines bien que lancer une monnaie, que tu sois, c'est quelque chose qui est très provocateur. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a la Banque du Canada qui met le dollar canadien, il vaut tant, tu sais, il n'y en a pas illimité. Si tu gratuitement imprimer des billets de vin chez vous, tu vas te retrouver en prison, c'est assez certain. Et là, Facebook, ce qu'il dit, c'est qu'on va créer une autre monnaie à côté des autres monnaies, puis on va pouvoir transiger des choses. Mais ça met en question le dollar US, l'euro et tout ça, qui sont des monnaies légales, si tu veux, puis ça crée un univers à côté. Donc au départ, évidemment, Visa, Mastercard, ils sentaient la bonne affaire. Ils se sont dit, on va embarquer là-dedans. Et tranquillement, ça commençait à dire, ben là, Facebook aura le total contrôle sur ce qui se passe. Ils peuvent jouer sur le taux de change comme ils veulent. Ils vont probablement t'inciter à consommer dans Facebook, hein, puis probablement que tu pourras pas acheter ton café chez Tim Hortons avec tes Libra et tout ça. T'sais, ça va être très limitatif. Et en plus, comble de tout, Facebook a dit, ben, il faut qu'on s'inscrive notre monnaie à quelque part, hein. Faut qu'on ait un genre de banque ou un lieu dit. Fait qu'ils ont dit, on va faire ça à Genève, qui est comme un grand centre en Suisse. On sait, les banques suisses et tout ça. Et
qui est aussi le paradis du secret bancaire.
Mais là, ce qui est tournure d'événements intéressante récemment, l'État suisse a dit on n'est pas trop confortable avec votre affaire. Fait que là, ils ont comme plus de maison non plus pour le Libra. Fait que quelque part, tu perds tous tes partenaires, tu perds ta maison, etc. Fait que c'est un peu un projet dans les airs. L'idée initiale, c'était de concurrencer le Bitcoin, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Le Bitcoin, évidemment, c'est une monnaie complètement décentralisée. Puis c'est ça son avantage, c'est qu'il n'y a pas comme un chef du Bitcoin, c'est tout le monde qui fait sa petite part.
D'un autre côté, c'est comme insaisissable. Tu comprends pas très bien comment le vol court. Tu sais pas ce qui l'influence.
Non.
Il semble que ce soit très compliqué parce que ton mot de passe, si tu le perds ou même si tu changes d'appareil, tu le perds.
Exactement.
Je pense que j'ai un ami, je pense qu'il est sur un iPhone 4, puis il y a une terreur totale que son iPhone le lâche.
Ben, j'écoutais un épisode récemment justement d'une série américaine, Planet Money, là, qui fait, c'est un podcast d'économistes. chacun sa passion. Mais qui parlait justement de l'histoire d'un monsieur qui avait perdu son mot de passe pour son portefeuille Bitcoin, puis il se rappelait même plus combien de Bitcoin il y avait. Ah. Puis vous savez, les Bitcoins, ça a passé à un moment donné de 200$ à 20 000$ contre le dollar US. Et il cherchait, là, mais comme tu sais, il a reviré sa maison à l'envers, ses disques durs dans le grenier. C'était comme la folie. Puis il savait pas s'il y avait un bitcoin ou 10 bitcoins, mais tu sais, il pouvait avoir quelque chose entre 20 000 et 200 000 et 2 millions de dollars dans son portefeuille. Et donc ça pose une autre question, effectivement, quand il n'y a pas d'autorité. Donc à quelque part, Facebook cherchait un petit peu à créer une nouvelle autorité à côté des banques centrales pour pouvoir faire... peut-être rémunérer ses utilisateurs, peut-être encourager les gens à rester plus captifs sur la plateforme.
On a une question d'un auditeur qui dit, bon, le truc de publicité, c'est une bonne idée, mais quelle compagnie, mettons Facebook, pourquoi elle voudrait partager leurs recettes? Pourquoi elle souhaiterait ça?
Ben, en fait, aujourd'hui, ils n'ont aucune raison. Fait qu'évidemment, il pourrait y avoir un règlement qui pourrait être mis. Les plateformes ont l'obligation de rémunérer les utilisateurs. Ça reste pas d'être très populaire, là. Puis comme je dis, Facebook, Google, ils ont des bons lobbyistes. Ils ont beaucoup d'argent, justement. Fait qu'ils font en sorte que ça n'arrive pas. Mais imagine demain matin, là, tu sais, on l'a vu, les médias sociaux, depuis quelques années, ça roule, hein. Facebook, ça a 10 ans. Donc avant, il y avait MySpace. Avant, il y avait une autre affaire. On a vu récemment Musical.ly qui est comme remplacé par TikTok. En fait, c'est des affaires de très jeune. Même moi, je suis pas là-dessus.
Mais moi, je suis sur TikTok.
T'es sur TikTok, bon, voilà. Mais il y a une écologie de ça. Il y a des nouveaux médias sociaux qui naissent constamment. Il y a des millions et des millions d'utilisateurs. Mais imagine demain matin qu'il y a comme un Facebook 2 qui arrive, là. Je sais pas, appeler ça BookBook, là. Et qui disent, à chaque fois que tu vas cliquer, je vais donner 3 cents. Ben toi, est-ce que tu es intéressé à aller à migrer tous tes contenus, etc.? Peut-être. Puis à la fin du mois, ben ça te fait, je sais pas, 50$, 100$. Mais éventuellement, on pourrait voir des propositions de marché émerger avec des plateformes qui disent « je vais te rémunérer pour ton utilisation ». J'ai trouvé sur Internet, en préparant la chronique de ce matin, un site qui s'appelle Kili, K-I-L-I. Ils disent que vous pouvez gagner jusqu'à 30$ par mois par réseau social en utilisant leur service. Je ne l'ai pas mis à l'essai.
Il y a quelqu'un qui veut l'essayer. Pascal! Non, on a dit que c'était tes missions. Là, ben que oui, tu prends des missions impossibles.
Je commence à être active sur Instagram. En plus, on va le faire remarquer dernièrement. Imagine comment je ne suis pas un bon cobaye.
Mais bon, imagine, Pascal, en disant qu'Ili, tu pourrais gagner jusqu'à 180-200$ par mois. C'est quand même intéressant.
D'après moi, il faudrait que je mette une coupe de photos en maillot puis ça n'arrivera jamais.
Mais ceci dit, je ferme un peu là-dessus. Je lisais un roman récemment, complètement par rapport, d'un auteur, Marc Duguin, qui s'appelle Transparence. Bon roman. Et il parlait notamment d'un futur dans lequel, notamment, on est rémunéré par... C'était essentiellement ça, là, l'histoire du livre. Et il posait l'hypothèse que finalement, tu sais, avec la robotisation, etc., on va voir plein de types d'emplois, les camionneurs, les gens de ménage, etc., ces métiers-là risquent de disparaître. Mais pour lui, c'était comme la solution, c'était que l'Internet rémunérait les citoyens, puis ça créait un genre de revenu minimum garanti. Je suis pas très fan de l'idée, là, mais ça reste qu'en tout cas, dans sa fiction à lui, puis ça revient à votre conversation tantôt sur les jours de travail. C'est-à-dire que les gens étaient essentiellement payés un genre de 600-700 $ par mois pour rien, en fait, pour être sur Facebook. T'sais. Fait que là, tu passes de 4 jours de travail, là, votre réponse tout à l'heure, à zéro, parce que tu as juste à être sur Internet.
Ouais, mais je me suis souvent demandé si on supprimait tout le filet social, l'assurance chômage, l'aide sociale, les allocations, etc., puis qu'on donnait 500 $ par mois par citoyen.
Ben, à quelque part, cette solution-là, Myriam...
Dès la naissance, à partir de la naissance.
Tu sais que je suis pas d'accord avec toi.
Est-ce qu'on économiserait ou est-ce que ça nous coûterait plus cher que ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on économiserait.
Ouais, moi, je pense qu'il y a des gens qui se forceraient encore moins.
Difficile à dire, mais la question de rémunérer les gens donc pour leur donner, c'est une manière aussi de pallier au filet social qui, jusqu'ici dans l'histoire, a été très largement assumé par les États. Et
si
j'ai rien contre, je trouve ça super.
Mais t'es payé par les réseaux sociaux, là, à un moment donné, personne ne va travailler...
Il n'y a plus personne qui va vouloir travailler. Il va falloir du monde qui travaille.
C'est pas suffisant pour vivre, là, quand même.
Ben, attends un peu, là. Il y a une couple de personnes d'après moi qui...
Puis tu vas créer de l'inflation. L'inflation va faire en sorte que ce que tu vas gagner...
T'as pas le choix de travailler, mais...
Inquiète-toi pas. Si jamais on a un revenu supplémentaire, les gouvernements vont s'empresser de le confisquer.
Oui, OK, ça pour ça. Parce qu'en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre puis les employés que parfois on voit sur le terrain, moi, je ne trouverais pas ça encourageant.
Parce que le prochain rapport d'impôt simplifié, là, tu sais ce que ça va être? Ça va être deux questions. Combien avez-vous gagné? Envoyez-nous le tout.
Le tout. Ce qui est intéressant, évidemment, dans toutes ces monnaies dont on parle qui sont sur Internet, et le Bitcoin en est un exemple assez évident, c'est que c'est très difficile à suivre pour les autorités comme le Revenu Québec et tout ça. Et donc, si vous gagnez des Libras demain pour en surfant sur Facebook, je ne sais pas, vous gagnez l'équivalent de 100 $, mais ce n'est pas 100 $, c'est 100 Libras, mettons. Oui. Comment est-ce que c'est imposé, Myriam? La question reste ouverte.
Surtout si ça vient des Américains.
La question, c'est est-ce que ça va être imposé? La réponse est forcément oui.
Non.
Il y a juste Netflix qui ne le fera pas.
Ben oui, mais c'est américain. Presque tous les réseaux sociaux.
Et tu vas être obligé de déclarer. Tu es obligé de déclarer.
Oui. Comment tu vas être
obligé de déclarer? Oh, inquiète-toi pas.
Ils vont trouver.
Fie-toi sur eux autres.
Bref, si Andrew Yang est élu président, c'est-à-dire c'est le 7e candidat à la primaire démocrate réussi à souffler jusqu'en haut, on aura peut-être un règlement en ce sens d'ici quelques années.
Ça ne pourra arriver que si la Chine décide de faire de l'interférence.
Tout peut arriver.
Merci beaucoup, Francis. Merci Francis Gosselin est spécialiste du monde des affaires et président de Sage Conseil.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.